Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir.
Veillons à ne pas être trop nombreux à table.
Ah bah voilà, quand on ne s'applique pas à soi-même les bons conseils que l'on donne aux autres, eh bien ça crée des soucis, car Emmanuel Macron a le Covid, figurez-vous. Et hier soir, ses convives étaient bien trop nombreux à table à l'Élysée. Ainsi, le Premier ministre Jean Castex se retrouve une nouvelle fois cas contact et isolé pour 7 jours par exemple. On en parlera avec la ministre Marlène Schiappa. Elle sera en direct avec nous à 18h15. La table et ses plaisirs, on en parlera aussi à 18h35 avec un garçon ultra populaire, mais que l'on connaît finalement assez peu. Il s'appelle Cyril Lignac, il sera lui aussi avec nous et il a accepté de se livrer un peu. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce jeudi 17 décembre.
Un président positif donc, mais au travail. Emmanuel Macron doit d'ailleurs prononcer un discours dans les toutes prochaines minutes. Ce sera bien sûr à distance. Dans ce journal également, pas de JO pour la Russie, ni à Pékin, ni à Tokyo. Le pays est exclu de toutes les compétitions mondiales pour cause de dopage. Et puis un Père Noël traité d'ordure, ça se passe à Blois. Il a décidé de rendre son tablier, vous le verrez.
Mais parce que là, c'était pas drôle. La météo, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Demain, on aura droit à un temps sec pour presque tout le monde.
Exactement. Entre le sud-ouest, le nord, le nord-est, bon, on aura de la grisaille le matin, ça vous êtes habitués, mais une fois la grisaille dissipée, on profitera du soleil. Même si c'est vrai que parfois elle est un peu tenace, hein, surtout dans le nord, cette grisaille. Il y a quand même deux zones perturbées, les côtes de la Manche le matin, juste la pointe bretonne en journée. Ce sera surtout nuageux, les pluies seront très faibles, en revanche le vent va bien souffler. Et puis à l'opposé dans le sud-est, entre la Méditerranée, en remontant vers le Jura le matin, et surtout sur le Languedoc l'après-midi, pareil, un temps nuageux avec quelques gouttes. Tout ça sous des températures qui vont peu évoluer, avec des maximales entre 7 et 16 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et pour commencer donc, des nouvelles d'Emmanuel Macron. Le président testé positif au Covid ce matin. Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
Comment va-t-il ce soir?
Alors suffisamment bien pour écrire un discours et s'exprimer en visioconférence, puisque dans quelques minutes, vous l'avez dit, le président va conclure la conférence nationale humanitaire qui se déroule au ministère des Affaires étrangères, en visio donc. Pour autant, le chef de l'État a bien des symptômes qui sont apparus dans la nuit de mercredi à jeudi. Entre nous, c'est léger, il va bien, confie un de ses proches, mais il n'est pas dans une grande forme. Emmanuel Macron est donc fatigué. Pour le reste, l'Élysée donne peu de détails. Si le président tousse, on le saura assez vite, c'est difficile à cacher. Mais pour les maux de tête et la fièvre, il existe le Doliprane. Et s'il a perdu l'odorat, on ne pourra pas le deviner, sauf si lui-même en parle. En tout cas, ce soir, eh bien, l'Élysée veut montrer que le virus n'empêche pas le président de travailler.
Et ce soir, c'est toute une partie de la République qui est à l'isolement.
Oui, le chef de l'État oblige plusieurs personnages clés de l'État à s'isoler. Son Premier ministre, d'abord, qui a été testé négatif, mais qui doit s'isoler 7 jours avant de se refaire testé, le président de l'Assemblée Richard Ferrand et le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler. Le point commun entre toutes ces personnalités, vous l'avez dit, c'est qu'ils étaient tous à un dîner de la majorité hier soir à l'Élysée. Dîner politique pour parler de la crise sanitaire, mais aussi de la réforme des retraites ou du calendrier parlementaire. Une dizaine de personnes réunies dans la salle des fêtes et qui s'est terminée après minuit, donc bien après le couvre-feu. L'Élysée rappelle qu'il s'agissait bien d'un dîner de travail autour d'une table de 15 mètres, que tout a été fait avec distanciation, masque et micro pour chaque participant. Mais la question des rendez-vous physiques, pas indispensables et qui auraient pu se dérouler en visio, risque quand même de se poser dans les jours qui viennent.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Et ce soir, l'Élysée indique également que Brigitte Macron a été testée négative. Elle reste toutefois à l'isolement, comme c'est la règle pour les cas contacts.
Et à gauche comme à droite, on souhaite ce soir un prompt rétablissement au chef de l'État. Certains, toutefois, ne se sont pas privés d'ironiser. Un peu, en tout cas, l'image du sénateur Bernard Jomier. C'était tout à l'heure dans l'hémicycle.
Je voudrais d'abord, mesdames et messieurs les ministres, que vous fassiez notre interprète auprès du Premier ministre, lui souhaitant de ne pas avoir été contaminé. Et puis auprès du chef de l'État, évidemment, de franchir ce qui est une épreuve, sans dommage pour lui-même et pour ses proches. Et puis faites-vous aussi notre messager, s'il vous plaît, auprès du préfet de police de Paris, qu'il ait pour le chef de l'État l'indulgence qu'il n'a pas eu pour les Parisiens au printemps, quand il a accusé ceux qui avaient été contaminés d'en être responsables pour avoir enfreint les gestes barrières et le confinement. C'était très injuste.
Le sénateur de Paris Bernard Jomier, qui est par ailleurs médecin généraliste, était donc tout à l'heure au Sénat. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir à tous.
On évoquait à l'instant ce dîner à l'Élysée hier soir. Alors d'un point de vue purement sanitaire, vous diriez quoi? C'était imprudent?
Alors non, si les règles de sécurité ont été respectées. Alors c'est compliqué avec l'Élysée. Aucun Français n'a une salle à manger aussi grande que celle du président de la République. Est considéré comme cas contact, soit une personne qui, sans protection, a été à moins d'un mètre d'un malade, peu importe la durée. Là, tous les invités étaient visiblement éloignés à plus d'un mètre. Autre possibilité, un cas contact est une personne qui a été sans masque dans une salle confiné pendant plus d'un quart d'heure. Un bureau, une voiture, une salle à manger, donc dîner ou déjeuner dans une même pièce entraîne un risque, sauf si cette pièce est régulièrement aérée, car même à 3 mètres de distance, le virus peut se déplacer dans l'air. C'est ce qu'on appelle la contamination par aérosol. Si on n'aère pas au moins toutes les heures, le virus s'accumule dans l'air de la pièce. Alors il faudrait savoir si la salle des fêtes de l'Élysée était aérée, sachant qu'elle peut contenir 250 personnes pour qu'un malade la remplisse de virus par aérosol. Il faut sans doute plus que le temps d'un dîner.
C'est effectivement une grande salle à manger. Merci Virginie Garin. Hasard du calendrier, Amandine, c'est aujourd'hui que l'Institut Pasteur a présenté son étude sur les lieux de contamination. Étude très attendue. C'est la première du genre en France. Alors verdict ?
Eh bien verdict, les repas sont la première source de contamination. C'est ce que nous explique l'épidémiologiste Arnaud Fontanet qui a mené cette enquête.
Il est clair que dans cette étude, les rassemblements avec la famille que j'appelle élargie, hein, au-delà du foyer, et puis les amis, ont joué un rôle très important dans la transmission. Et ce qui, moi, m'a surpris dans cette étude, c'était que les repas sont intervenus dans la moitié des cas comme le moment où la transmission s'est faite. C'est-à-dire quand on dit « vous savez qui vous a fait infecter », il vous dit « oui, je sais, c'était telle personne qui est un ami et c'était pendant un repas ». Mais dans la moitié des cas, c'était un repas. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet autour du repas comme un moment à risque. Ça se comprend assez bien parce que aussi, on est relativement proches les uns des autres, etc. On voit que dans le milieu professionnel, c'est aussi un moment qui représente un risque d'infection. Et là, c'est peut-être le moment où dans le milieu professionnel, on enlève le masque.
50% donc des contaminations au cours des repas, sachez-le, c'était le professeur Arnaud Fontanet, les propos recueillis pour RTL par Sophie Jousselin.
Dans un instant, figurez-vous que le Père Noël est très 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 en colère. Il a carrément démissionné, et ça à 8 ou 9 jours de Noël.
C'est 8 dodo.
8 dodo, c'est pas une très bonne nouvelle, à tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h et pratiquement 9 minutes, la suite du journal Amandine Bégaud et une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Elles sont particulièrement rares en ces temps de crise. Huawei va installer une usine en France.
La première, le géant chinois des télécoms a choisi Brumath dans l'est de la France. Il s'agira d'un site de production et d'équipement lié à la 5G. C'est sa première usine de ce type hors de Chine. À la clé, 300 emplois au moins dans un premier temps. Et puis le verdict au procès de l'attentat déjoué du Thalys, le principal accusé, le tireur Ayoub El-Khazani, est condamné ce soir à la réclusion criminelle à perpétuité, une peine assortie de 22 ans de sûreté. C'est ce qu'avait demandé l'avocat général dans son réquisitoire.
Les sports ou presque, la Russie sera privée de JO à Pékin l'an prochain et à Tokyo en 2022.
Le pays est en effet exclu de toutes les compétitions mondiales pour 2 ans, décision du tribunal arbitral du sport après la mise au jour d'un système de dopage à grande échelle, Félix Grasso.
Alors cette décision ne concerne pas l'ensemble des athlètes russes. Ceux qui auront démontré qu'ils n'ont pas recouru au dopage pourront concourir sous bannière neutre. À l'origine de cette décision, on trouve la suppression des traces de contrôle antidopage positif et le trucage de fichiers du laboratoire de l'agence antidopage russe sur une période allant de 2011 à 2015. Le président du comité olympique russe, Stanislav Pozniakov, a accusé le coup, mais il a aussi trouvé des motifs de réconfort.
Je crois que le résultat le plus important de notre travail, c'est le fait que le tribunal arbitral du sport n'a pas suivi l'Agence mondiale antidopage dans l'application d'une mesure de responsabilité collective et n'a pas fixé de critères supplémentaires pour la participation des athlètes russes aux Jeux olympiques et paralympiques ni aux championnats du monde.
Le tribunal arbitral du sport a donc ramené à 2 ans une décision initiale de l'Agence mondiale antidopage portant sur 4 années. Les équipes russes pourront donc participer aux championnats du monde de hockey qui auront lieu en Russie en 2023 avant de faire leur retour sur la scène olympique à Paris en 2024.
Alors Félix Grasso à Moscou, pourrait-il, avec ces Jeux de Tokyo 2020 qui viennent en 2021, ça je me suis pris un peu les pieds dans les dates. Donc si on se résume, et je parle sous votre contrôle Amandine, c'est Pékin Jeux d'hiver 2022 sans les Russes, et c'est Tokyo 2021 pour les Jeux de 2020.
C'est ça, vous avez tout bon, c'était un peu de ma faute.
Si mais non, c'est pas trompé, de votre
donc,
faute.
Donc ouais. Voilà, bon, Noël, ça on est au taquet, et on est bon, c'est 8 dodo.
8, ça c'est sûr.
Et un gros coup de gueule ce soir, c'est celui du Père Noël de Blois. Il a, figurez-vous, décidé de démissionner, écœuré par le Covid et le comportement de certains qui n'ont pas hésité à le traiter d'ordure.
Non.
Oui, écoutez.
On me reprochait d'être là et pour eux, c'était pas normal vu qu'il y avait le Covid. Les enfants, ils voulaient m'approcher, les parents ne voulaient pas. Les parents leur disaient « laisse-le, c'est un faux Père Noël, Père Noël, t'es une ordure ». Il y en a maintenant, il m'a menacé de me battre devant les enfants. Quand l'enfant venait me voir, eh ben, le parent il prenait par la main et je lui disais « laisse-le ». Et hop, il s'en allait avec l'enfant. Moi, ça m'a fait mal au cœur pour les enfants et ça me fait mal au cœur pour moi. J'en ai pleuré parce que j'ai jamais connu ça. J'ai dit « je démissionne, j'arrête ». Parce que bon, le Père Noël, il n'a pas à subir tout ça, même s'il y a le Covid.
Ben non, le Père Noël, il n'a pas à subir tout ça. Père Noël de Blois, au micro RTL de Christian Panvert. Alors que les enfants qui nous écoutent se rassurent, le Père Noël, le vrai, lui, est toujours au travail. Et il sera bien là le jour J, enfin pour ceux qui ont été sages.
Et ceux qui se couchent tôt sans trop discuter le soir, message
ça,
personnel.
Ouais, voilà. Bon, et il a même été vacciné, le Père Noël, contre le Covid. C'est ce que nous disait cette semaine l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Tout va bien donc.
Merci beaucoup Amandine et à tout à l'heure. Dans un instant... on va prendre des nouvelles de Marlène Schiappa. Alors qu'Emmanuel Macron est en visioconférence en ce moment. On le voit apparaître sur les écrans, col roulé, masque FFP2, l'air un peu fatigué, il faut bien le dire. Il faut dire qu'il a le Covid, le chef de l'État. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté vient nous donner des nouvelles toutes fraîches.
RTL Soir.